L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette 9e saison les invités du LEM, la première partie qu'on peut réécouter aussi le lendemain à 8h30. Aujourd'hui, on s'approche du bord de mer, prudemment cependant. Vivre en bord de mer, ça fait rêver. Le prix de l'immobilier en témoigne et pourtant, ces dernières années, sur fond de bouleversements climatiques bien entamés, le littoral rime aussi avec le risque. Risque de submersion marine en période de tempête, de grande marée, érosion du trait de côte, car oui, la mer monte, chez nous aussi. Déjà, elle a monté de 4 à 5 mètres depuis 8000 ans, ce n'est pas fini. Depuis 1700, l'année 1700, on a pris 30 cm de hausse du niveau de la mer à Brest. J'imagine que ce sont des chiffres à peu près. Ça s'accélère en tout cas. Comme le Finistère compte 2260 km de côte, c'est un sujet. Voilà pourquoi est né Osiris, l'observatoire intégré des risques côtiers en Bretagne. Il regroupe 3 laboratoires de l'Institut européen de la mer, l'IUM, UBO. Et c'est notre invité qui coordonne le projet, c'est Nicolas Le Dantec, dont la spécialité c'est, je crois, la géomorphologie. Bonjour.
Bonjour.
C'est ça, géomorphologue vous êtes ?
Je suis géomorphologue.
Ce qui veut dire en gros ?
Que je m'occupe de l'évolution des paysages, des formes, voilà, avec quand même par rapport à une communauté qui est assez large, une spécialité plus sur les parties physiques, dynamiques du transport de sédiments.
Sédiments, sable, roche, etc. etc. quoi. Et donc Osiris, avant d'être un observatoire, c'était un projet de recherche. Donc ça consistait en quoi ? Enfin, ça concernait quel territoire ?
En fait, il y a une suite de projets de recherche qui se sont mis en place depuis le début des années 2000. Et puis Osiris était l'un d'eux. Avant, je vais par exemple citer l'ANR Cocorisco.
Voilà. Toujours des noms très exotiques. Hein.
Et on est obligé de trouver des acronymes intéressants. Donc Osiris était un projet financé par la Fondation de France. Et en fait, le sujet, c'était de mieux comprendre les déterminants qui permettent de comprendre ce qui fait qu'un territoire littoral est vulnérable au risque côtier d'érosion et de submersion.
Et au départ, c'était plutôt le nord, en Côte d'Armor, je crois, c'est ça
Alors, il y avait quelques territoires pilotes, effectivement, dans le cadre du projet Osiris, hein, parce qu'il s'agissait d'expérimenter une démarche, d'élaboration d'indicateurs qui permettent de mettre en place un suivi dans le temps de la vulnérabilité au risque côtier. Et donc il s'agissait de co-construire un ensemble d'indicateurs sur, alors je vais en parler un petit peu plus tard, hein, mais sur les différentes composantes qui conjointement contribuent à rendre un territoire plus ou moins vulnérable. Et il fallait que ces indicateurs soient à la fois pertinents pour les scientifiques pour pouvoir comprendre, et aussi pour les acteurs du territoire, que ça leur serve un petit peu d'outil d'aide à la décision, pour comprendre quels étaient leurs leviers d'action et comment avoir des trajectoires plus durables, plus résilientes en fait, pour leur territoire littoral.
Parce qu'un trait de côte, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est quand même c'est complexe. Enfin, c'est-à-dire, moi, j'ai brossé à grands traits l'élévation du niveau de la mer, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. En fait, il y a différents traits de côte. Est-ce qu'on peut faire un petit portrait quand même dans le Finistère des différents littoraux qui existent et des vulnérabilités qui sont associées à ces formes, justement, puisque vous êtes géomorphologue?
Alors, vous l'avez dit, le linéaire côtier finistérien et breton est particulièrement étendu parce qu'on est sur des côtes qui sont très, très découpées. Je m'amuse assez souvent à dire que quand on déplie la rade de Brest, on a la moitié de la côte aquitaine. Donc voilà, pour vous dire, c'est effectivement un linéaire très long. Donc en termes de suivi, c'est compliqué à mettre en place. Et puis effectivement, on a une variété très, très large, hein, une grande gamme de côtes. Alors il y a des côtes basses qui sont des côtes d'accumulation, les cordons sableux, les plages, les cordons de galets. Y a aussi...
Là, c'est plutôt, chez nous, c'est plutôt le pays bigoudin, c'est ça
Alors, il y en a beaucoup en pays bigoudin, mais en fait, on en trouve partout, hein, côte nord aussi. Ensuite, il y a des falaises, donc des versants, hein, qui peuvent être des falaises rocheuses, ou des versants de formation plus meubles, donc qui vont résister moins aux agents d'érosion marine et continentale. Des formations héritées qui sont des dépôts anciens mis en place mais qui viennent recouvrir un socle rocheux et qui quand la mer monte vont plus facilement être nettoyées, disons. Et puis il y a aussi tous les estuaires et les rias qui sont donc des environnements très très différents et ben ils sont pas tous en recul, il y en a actuellement
ça avance,
qui sont en accrétion,
ouais,
voilà.
C'est ça, c'est fou.
Et donc tout ça demande à être compris selon, alors là on a parlé de géomorphologie différente, il y a aussi des expositions aux houles, au vent par exemple, le marnage est différent aussi selon qu'on est Finistère Nord, Finistère Sud, voilà, donc il y a une très grande variabilité dans les typologie.
Oui, c'est pas seulement question de changement climatique, en fait. Enfin, si, mais un peu, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, il y a aussi des dynamiques qui existent toujours, quoi.
Alors, si on regarde uniquement l'aléa, c'est ce qui nous intéresse quand on parle de submersion et d'érosion, effectivement, la mer monte. Alors, si on regarde à l'échelle mondiale ou européenne, la hausse du niveau marin ne va pas être la même partout, hein. Déjà, la hausse elle-même ne va pas être la même. Et puis, en plus, il y a d'autres phénomènes qui font que, par exemple, les territoires au nord de l'Europe, on connaisse encore un rebond dû à la fonte des anciennes calottes glaciaires, hein, qui font qu'il y a une élévation légère. On parle de surrection qui vient pratiquement compenser la hausse du niveau marin, qui me reste supérieure à la hausse du niveau marin. Mais sur nos territoires à nous, voilà, on s'attend au fait que la hausse entraîne effectivement une montée relative du niveau marin par rapport au niveau continental. Après, ce sont les zones basses qui vont effectivement être les premières affectées.
Oui, c'est ça.
Donc c'est là qu'il y aura le plus de problèmes. Alors, quand on parle de problèmes...
Oui, c'est quoi parce qu'on dit submersion marine, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, concrètement ?
Vous l'avez un petit peu dit, là, le trait de côte, il a toujours évolué. C'est pas quelque chose de figé. On a semblé croire en tout cas, sur la période récente au moins, qu'on pouvait décider d'un positionnement et fixer le trait de côte en implantant des ouvrages. En fait, le niveau de la mer est monté de quelques 120 mètres hein, pendant la dernière transgression, donc voilà, les 18 000 années précédentes.
Donc là, c'est la fin d'une période glaciaire, en fait, en gros, c'est ça.
Donc on est dans un haut niveau marin en fin de période glaciaire, donc le rythme de la hausse s'était très largement ralenti, et puis sous l'effet des changements climatiques, il se réaccélère. Donc on était effectivement sur environ 1,5 mm par an sur le dernier siècle, et en fait, si on regarde sur les 10-15 dernières années, on est plutôt à 3 mm par an.
Ce qui paraît pas énorme.
Au port
mais...
de Brest, ouais, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait déjà effectivement 20 cm sur un siècle. Les prévisions du GIEC nous disent qu'à 30 ans, on a 20 cm de plus. Voilà. Et avec une assez faible marge d'incertitude. Et puis, à l'horizon 2100, on est plutôt entre 60 cm à 1,10 m selon différents scénarios de comment nous, on se comporte en termes d'émissions. L'incertitude aussi inhérente au modèle, on ne connaît pas tout, mais on est quand même capable d'affiner de plus en plus. Et puis surtout, les différentes éditions des rapports du GIEC ont des prévisions de plus en plus pessimistes. Donc de toute façon, on aura affaire à une hausse du niveau marin. Il ne faut peut-être pas tant que ça se consacrer, enfin c'est nécessaire bien sûr, mais il n'y a pas que limiter les marges d'incertitude et savoir quel niveau on aura dans combien d'années. C'est surtout se dire que ça arrive en 2100 ou en 2200, de toute façon on aura affaire à plus un mètre.
Voilà.
Donc comment on gère plus un mètre ? Alors sur des falaises rocheuses, c'est pas très grave.
Ça fait quand même des falaises qui s'effondrent, hein. Pour les promeneurs ça peut être dangereux.
Voilà, alors les falaises rocheuses peuvent connaître des effondrements, mais dans des roches comme du granit, les taux d'érosion vont être très faibles et la résistance de la roche est quand même suffisante pour avoir voilà, si la falaise est suffisamment haute, il n'y a pas de problème de submersion. Et puis les vitesses de recul sont très faibles. Ça n'empêche pas des éboulements ponctuels, mais globalement, en moyenne, sont très faibles. Donc effectivement, le problème, c'est le sentier côtier quand il passe tout près de la falaise.
Oui, puis on n'a pas que des falaises de granit, on a des falaises
de roches plus altérées, parfois effectivement très très altérées, ou les falaises de, voilà, d'anciens dépôts dunaires, de Leus, toutes les coulées périglaciaires, qu'on appelle falaises de Head. Et bien ça, c'est effectivement, dès que le niveau marin va augmenter, on va avoir affaire à un nettoyage très actif et on peut avoir des taux de recul voilà, très importants, de plusieurs dizaines de centimètres par an dans certains secteurs, donc c'est très significatif.
Et sinon, les submersions marines, donc c'est plus, ça concerne plus, on va dire, les zones basses, comme vous disiez. Donc là, c'est, on les voit hein, déjà à l'île Tudy, notamment. Enfin, c'est la mer qui rentre un peu trop quand il y a des tempêtes, c'est ça, en gros. Enfin.
Oui, oui. Alors, on va pas faire une liste exhaustive parce qu'elle ne serait pas des exemples, mais effectivement, il y a beaucoup de secteurs où, déjà, en période de fort coefficient de marée, concomitant avec des phénomènes tempétueux qui amènent des surcoûts. Donc une hausse temporaire du niveau marin liée à ces tempêtes, on a des inondations. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec une hausse du niveau marin, on a, je disais, 20 cm de plus dans 30 ans, ce sera 20 cm de plus tout le temps. Tempête, hors tempête, à marée haute et à marée basse, ça veut dire que à chaque marée haute, ou en tout cas beaucoup plus fréquemment, on aura les pieds dans l'eau. Voilà. Et puis, pendant les périodes de très fortes tempêtes où on a voilà, des risques de franchissement par la mer, certains ouvrages, et ben là, les franchissements pourront être plus importants avec des zones beaucoup, beaucoup plus impactées. Et c'est effectivement une réalité actuellement. Et ça le deviendra de plus en plus.
Et ça attaque les cordons dunaires aussi, j'imagine. Ces submersions répétées, non? Ou les digues faites par les humains.
Il y a effectivement le potentiel de dégâts sur des ouvrages et sur le milieu naturel. Alors, en fait, on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes. Il n'y a un problème qu'à partir du moment où il y a des enjeux derrière. Voilà. Parce qu'on le disait, l'évolution du trait de côte, c'est naturel. Et tant qu'on n'a rien d'exposé, en fait, c'est pas très grave.
Si personne n'habite là, tout va bien.
Voilà, et donc ce qui pose problème, c'est le fait que on a installé des résidences, des infrastructures, alors des aménités, très souvent aussi. Alors parfois c'était nécessaire, on ne peut pas envisager un port dans les terres, ça ne marcherait pas, sauf quand on dispose d'un grand fleuve. Et même la marée rentrant dans les fleuves, les ports à proximité de ces secteurs-là seront aussi touchés par la hausse du niveau marin. Donc là, il faut réfléchir à comment on adapte tous ces enjeux, ces infrastructures, ces outils de travail, ces outils économiques qui sont absolument nécessaires. Mais il faudra faire des choix pour les rendre plus résilients.
Donc Osiris, le projet de recherche lui-même, c'était de tester ça à petite échelle, c'est ça? Et ça a débouché sur l'observatoire qui lui concerne toute la Bretagne, Osiris?
Alors voilà, c'était sur des territoires pilotes et il s'agissait de se dire, ok, les changements de paradigme, en fait, c'était un petit peu ce qu'on essayait d'écrire, c'est de dire, d'expliquer là, c'était de dire, ok, mieux comprendre les aléas, c'est important. Il faut aussi comprendre ce qui est exposé, les enjeux, parce que le croisement de ces deux-là, voilà, c'est ça qui produit le risque. Et en fait, on parle de changement climatique et on impute tout au changement climatique. Il faut avant tout comprendre ce qui amène le risque, c'est effectivement l'aléa qui a augmenté, mais c'est aussi les enjeux qui ont été installés. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc les leviers, les solutions qu'on a pour en fait réduire la vulnérabilité, c'est de mettre moins d'enjeux et ça passe par des stratégies de gestion. Et donc la gestion à long terme, ça peut être que l'on adapte en rehaussant, par exemple. Ça peut être qu'on construit des protections, effectivement, mais là, il faut voir jusqu'à quelle hauteur, avec quel dimensionnement, combien ça coûte, est-ce que c'est viable. On augmente l'aléa, en fait, quand on fait ça, parce qu'effectivement, on se sent protégé, on installe plus d'enjeux derrière les protections, et puis le jour où c'est franchi, c'est catastrophique.
Oui, on se méfie moins, du coup, on va presque construire plus parce qu'il y a une
espèce de fausse sécurité. Okay, et donc voilà, dans Osiris, l'idée, bah, c'était déjà le cas dans Cocorisco, mais c'était de dire un vrai diagnostic de vulnérabilité, il faut prendre en compte de manière, on appelle ça systémique, la vulnérabilité, c'est-à-dire on considère à la fois les enjeux et les aléas, mais on considère aussi la composante gestion et les représentations, c'est-à-dire ce que les gens pensent, en fait. Parce que le blocage reste là, c'est... Vous le disiez en introduction, le prix de l'immobilier continue à augmenter de manière toujours assez soutenue. Ça veut dire qu'on ne voit encore que l'attractivité du littoral à court terme, en se disant qu'on va pouvoir, pour ceux qui en ont les moyens, profiter. Et puis que, ben, on a encore besoin des infrastructures qu'on a installées, que ce sera trop impopulaire de commencer à réfléchir à peut-être pas se priver de certaines infrastructures, mais en changer les usages. En tout cas, adapter la manière par laquelle on s'est un peu approprié le littoral pour la rendre plus résiliente et avoir une appropriation, parce qu'on ne prétend pas dire qu'il faut plus personne n'y vienne, mais qu'il se fasse de manière plus résiliente.
Ah ben on commence à parler là de déconstruction de maisons qui sont trop près de la mer. Ça y est, là on en parle.
On devra passer par là, en parle, ce sont des cas isolés, mais qu'ils deviendront de moins en moins. Et effectivement, parmi toutes les différentes stratégies qui sont possibles, la stratégie la plus avancée, c'est celle-là, c'est de dire on recule les enjeux, comme ça, quand l'aléa se produira, et il se produira, le risque n'existera plus, vu qu'on aura déplacé les enjeux. Alors, c'est très facile sur le papier, évidemment. Pour les gens à qui on demande de se déplacer, c'est très difficile. Il y a des considérations d'attachement au lieu, c'est tout un cadre de vie qu'on enlève. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Et puis, pour les élus, c'est des messages difficiles à faire passer, pour l'État aussi. Puis ça pose plein de questions de disponibilité foncière pour offrir des possibilités de relocalisation, à la fois pour les résidences, mais aussi pour les infrastructures. Imaginez s'il y a par exemple une partie du réseau des routes communales et départementales qui va devoir être déplacée. Pour le sentier côtier, c'est pareil. Et les questions de servitude de passage, c'est toujours des questions très difficiles à régler. Donc, il faut trouver du terrain en retrait. Et ça, c'est effectivement des choses pour lesquelles il faut largement développer notre connaissance sur ces questions de représentation sociale, en fait, de tous les acteurs, les usagers, les décideurs. Finalement, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils perçoivent, comment ils situent l'attachement à leur lieu de vie, dans quelle mesure la prévention contre les risques côtiers fait partie des priorités. Comprendre un petit peu tous ces ressorts.
Ça veut dire que dans Osiris, vous êtes géomorphologue, mais il y a aussi des psychologues, psychosociologues, c'est ça ?
Oui, enfin, sciences humaines. On a la chance de travailler à l'Institut universitaire européen de la mer et avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne occidentale, avec un collectif de travail très interdisciplinaire, donc avec des géographes, des gens qui font des géosciences, mais aussi des gens qui font des sciences humaines et sociales, la géographie humaine, la psychologie environnementale, de l'accompagnement des politiques publiques. Ça permet effectivement d'embrasser toutes les composantes de cette question-là et d'apporter... Alors, on ne dit pas qu'on apporte des réponses, mais par exemple, explorer les voies de concertation sur ces questions de relocalisation, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi.
Comment ça se passe concrètement ? Enfin, comment fonctionne Osiris concrètement, déjà, l'observatoire, pardon ?
Alors, le projet nous a effectivement permis de voir que si on voulait pouvoir... suivre dans le temps l'évolution de la vulnérabilité et puis dans l'espace aussi. Il fallait pouvoir disposer d'observations et de collecter des données de manière régulière.
On en avait déjà des données, pour
certaines composantes, on disposait de bases de données de référence et puis il y avait déjà des suivis qui avaient été entamés sur certains territoires.
On peut aller sur le site de l'IGN, Institut Géographie Nationale, qui est vraiment avec des photos aériennes avant-après, par exemple.
Exactement, donc pour toute la partie comprendre l'évolution physique, donc le recul du trait de côte, la partie aléa, c'est assez bien documenté. Alors, on peut faire mieux en déployant plus d'énergie pour avoir des mesures localement qui sont plus précises. Mais effectivement, on avait des données au départ. Pour les enjeux, c'est un peu la même chose. On avait une idée, voilà, avec toutes les bases de données nationales, du bâti, de l'implantation des routes, etc. On peut aussi faire mieux avec un positionnement plus précis, des informations sur la largeur de la route, par exemple, dont on ne dispose pas toujours. Une route, c'est un trait sur une carte, voilà, faut le positionner de manière précise. Par contre, sur la gestion et la représentation sociale, on n'avait pas grand-chose, en fait. Et là, il a fallu, en plus, imaginer, ce ne sont pas des données quantitatives, comme le recul du trait de côte, on peut calculer à une distance.
Mais non, c'est des entretiens avec des gens, c'est
voilà,
ça.
Voilà, on travaille sur une donnée
des questionnaires
qualitative,
aussi.
Et il fallait trouver, et ça a été un effort... assez considérable, en fait. C'est les spécialistes, les collègues de ces questions-là n'étaient pas du tout habitués à retranscrire leurs données, leurs informations sous forme de données quantitatives. Or, pour pouvoir croiser les différentes composantes, pour avoir des indicateurs composites agrégés, on parle du coup plus d'indicateurs, mais d'indices. Ça suppose que tout soit fait avec la même échelle. On a choisi une échelle de 1 à 5, qui permet de faire des croisements simples avec des outils, avec des logiciels d'analyse spatiale.
Et là, on était encore juste sur le Finistère ou vous aviez déjà élargi à la Bretagne, enfin...
Et donc, à partir de ce travail sur les territoires pilotes, on a eu la chance, en fait, d'être sollicité par le conseil départemental du Finistère, qui, au départ, n'est pas venu nous voir en nous disant « on a besoin de monter un observatoire », qui est venu nous voir en disant on a besoin d'accompagnement, on a besoin qu'il y ait un meilleur transfert d'expertise, de bénéficier des connaissances
pour
de
les
la
élus,
communauté
en fait.
Académique,
oui.
Pour les aider à prioriser les décisions, en fait. Et voilà, le conseil départemental est dans une position un petit peu atypique parce que ils sont pas en première ligne sur la question des risques côtiers, d'érosion et de submersion. Ils sont concernés au titre des routes départementales et des espaces naturels sensibles qu'ils gèrent. Mais ils viennent depuis longtemps en appui financier et en appui sur des questions de montage, d'ingénierie de projet, en appui aux collectivités locales. Et donc à ce titre-là, en particulier suite à l'hiver tempétueux 2013-2014, ils ont eu beaucoup de sollicitations et c'était compliqué pour eux de prioriser. Et puis ils voyaient bien que c'était souvent des sollicitations pour des réponses en urgence qui consistaient à renforcer un ouvrage. Alors on sait que ce n'est pas ça les solutions durables. Donc ils souhaitaient avoir une vision un petit peu plus large qui leur permette d'anticiper et puis effectivement avoir une sorte d'appui technique de conseil pour permettre d'appuyer les décisions des élus locaux. Et donc le partenariat Litorisk s'est monté de cette manière-là, donc entre le conseil départemental du Finistère, l'UBO et le CEREMA, qui est le troisième acteur, qui apporte une expertise
un organisme d'État. Et donc, qui est spécialisé dans les risques, tous les risques, pas seulement côtiers.
Voilà, tout type de risques et aménagement du territoire. Et mobilité. Et du coup, le partenariat avait trois volets. L'observation, la connaissance, en fait, l'accompagnement, l'appui technique, aussi par le biais de formation, et puis la sensibilisation. Donc on a produit des guides, des séries documentaires.
Même vous prêtez du matériel aussi pour observer, apparemment.
Voilà, et puis on appuie les collectivités, effectivement, dans certaines études. Alors on ne fait pas du tout
Vous ne faites pas des
études.
Digues, hein.
Non seulement on ne fait pas des digues, mais en fait on ne conduit pas d'études. Mais par contre, quand la collectivité mène une étude, on est très souvent amené à participer à des comités techniques en lien avec les bureaux d'études pour un peu servir, ce mot-là n'est peut-être pas très adapté, mais d'intermédiaire entre les collectivités locales et les bureaux d'études pour s'assurer que toutes les connaissances disponibles sont utilisées, peut-être que les choix techniques sont utilisent le mieux possible les outils récent, et puis que les solutions proposées sont bien comprises en fait par les collectivités, parce qu'en fait...
Ouais, vous faites de l'explication aussi, tout simplement.
Tout simplement.
Vous êtes combien de scientifiques, juste pour avoir une idée ?
On est une équipe d'une vingtaine, qui regroupe des chercheurs, enseignants-chercheurs, et puis des techniciens, des ingénieurs, des doctorants. On accueille beaucoup d'étudiants en master. C'est une manière de travailler avec les collectivités, d'ailleurs, qu'elles mettent un pied à l'étrier, de faire un stage ensemble, et puis on voit quelles sont les possibilités de collaborer, qui apportent en fait à tout toutes les parties prenantes. Et c'est très apprécié, voilà, des collectivités et puis des bureaux d'études aussi. Hein, qui, c'est, on a besoin de décloisonner beaucoup hein, entre le secteur académique, l'entreprise, les politiques publiques.
Déjà, il y avait des silos entre les sciences. Alors déjà, vous avez mis les passerelles. Déjà.
Et maintenant, on essaye aussi en intersectoriel de rendre les choses un petit peu plus fluides et il y en a vraiment besoin. Et un autre point qui nous a aidé, c'est le fait que les collectivités locales se sont trouvées en fait à recevoir de l'État des responsabilités, des prérogatives en termes de gestion des risques côtiers d'érosion et de submersion. C'était avant du domaine de l'État de prévenir ces risques. Et puis, bah, de plus en plus, l'État transfère vers les acteurs locaux. Ça a du sens. On sait que les solutions pour l'adaptation au changement climatique, ce seront des solutions locales qui seront les plus
pertinentes. Et tous les plans de prévention des risques et tout ça. Quoi, en
alors
fait,
avant,
ça,
c'était hein. l'État qui faisait ça. Ouais. Et puis maintenant, voilà, maintenant les cartographies d'exposition aux traits de côte, par exemple, à 30 et 100 ans, ce sont les communes qui sont en charge. Et puis pour la gestion des systèmes d'endiguement, c'est encadré par les dispositions GEMAPI hein, pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ça, ce sont les intercommunalités ou les syndicats de bassin qui prennent cette compétence-là. Et en fait, localement, ils avaient peu de connaissances techniques. Ils n'avaient pas l'expertise. Donc ce transfert de responsabilité ne s'est pas accompagné d'un transfert financier ni d'un transfert d'expertise. Et donc il y avait besoin, effectivement, de faire de la sensibilisation, de la formation.
Et Litorisk est donc là pour ça et on verra plus tard. Je pense que vous reviendrez, Nicolas Le Dantec, pour nous parler un peu de Litorisk, peut-être à une échelle plus régionale. Merci beaucoup en tout cas.
Merci.